BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Guillaume Paul.
18h, il sera 18h dans 1 minute 30. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Voici Good Evening Business en direct jusqu'à 20h pour décrypter l'actualité ensemble. L'actualité ce soir, elle est dominée bien sûr par la présentation du programme économique de Jordan Bardella ce matin à Paris. Présentation qui nous a pas vraiment rassurés sur les capacités du RN à financer les dépenses qu'il promet, notamment en matière de pouvoir d'achat. On va voir ça avec Thomas Asportas dans un instant. Et puis on en parlera tout au long de la soirée, notamment Edwige Chevrillon qui ressort. Recevra l'économiste Michael Zemmour dans 10 minutes sur BFM Business. Et puis, on va évoquer d'autres sujets en lien avec ces programmes économiques qui sont donc désormais tous sur la table avec nos experts dès 18h30. Faut-il craindre notamment pour son épargne? Vous savez que le Rassemblement National a confirmé ce matin le retour d'une sorte d'ISF quelque part. Est-ce qu'on doit s'inquiéter si on est épargnant pour son épargne? Est-ce qu'on doit se préparer à des relations tendues avec Bruxelles sur pas mal de sujets? Et puis, on posera la grande question, est-ce que la France, ça y est, devenu le grand malade de l'Union européenne? Beaucoup de questions, ça tombe bien, on a 2 heures pour tenter d'y répondre. Voilà le programme, très bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc Jordan Bardella ce matin, à peu près 1h20 de conférence de presse pour dévoiler l'ensemble de son programme pour les législatives et notamment son programme économique. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Qu'est-ce qu'on retient fondamentalement de cette prestation du président du Rassemblement National ce matin?
Il a présenté un programme qui s'articulerait en 2 temps. D'abord l'urgence cet été sur la sécurité, l'immigration et sur le pouvoir d'achat avec 3 propositions. La baisse de la TVA sur l'énergie, la sortie des règles européennes de fixation des prix de l'électricité et l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en vigueur par décret au 1er juillet. Ensuite, il y a un 2e temps à l'automne, avec des réformes qui présentent comme plus structurelles, notamment les retraites, avec un départ à 60 ans pour les moins de 20 ans qui ont cotisé 40 annuités, les carrières longues, et pour les autres, pour tous les autres, un retour progressif à 62 ans. Autre réforme, la poursuite de la baisse des impôts de production avec non seulement la disparition de la CVAE comme le promet la majorité, mais aussi la suppression de la C3S. Pour augmenter les salaires, le RN, ça on connaissait la proposition, veut exonérer de cotisations patronales pendant 5 ans jusqu'à 3 SMIC les entreprises qui augmentent les salaires jusqu'à 10%. Et enfin, pour financer l'économie, vous en parlez dans le sommaire, le RN veut créer un fonds souverain qui financerait l'innovation, les TPE-PME et les infrastructures. Et un dernier point enfin sur la méthode, le RN veut mettre en place, là aussi c'est dans le calendrier, dès cet été, 3 commissions avant de faire des choix définitifs. Une commission d'évaluation des comptes publics qui irait faire le fameux audit de nos finances publiques. Des états généraux de la simplification pour demander aux chefs d'entreprise ce qu'ils attendent comme mesures de simplification. Et enfin, une conférence sociale sur les salaires et les conditions de travail chargée notamment de plancher sur le retour progressif à la retraite à 62 ans.
Voilà donc pour les principales propositions économiques du Rassemblement National. Merci Thomas, on en reparlera tout à l'heure bien sûr avec vous sur BFM Business. Alors, il y a eu beaucoup de reculades ces derniers temps et encore aujourd'hui, Mathieu Pechberti, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Vous vous concentrez sur le secteur de l'énergie. Ce que vous nous dites, c'est reculade sur reculade finalement sur ce sujet.
Oui, alors c'est important parce que le secteur de l'énergie, les mesures liées à l'énergie sont parmi les plus importantes du programme économique de Jordan Bardella. Il les décrit même parmi ses premières mesures en tant que mesure d'urgence. D'abord sur la TVA, il a quand même fait un recul assez net sur le montant de la baisse de la TVA. On était jusqu'ici sur une baisse de TVA de 20% à 5,5%. Puis il est en train de dire désormais depuis ce matin qu'il faut s'aligner sur la moyenne des pays de la zone euro et on est à 11%. Et comme il n'y avait pas eu de chiffre très précis qui avait été donné jusqu'ici, aujourd'hui on est à 7 milliards d'euros d'économies sur ces mesures. Alors qu'avant, les estimations étaient autour de 11, 12, certains les chiffraient jusqu'à 17 milliards. Et puis, ça, c'est pour les mesures, on va dire, de pouvoir d'achat directement. Puis, sur la mesure plus structurante qui était liée au marché européen de l'énergie. Alors, on est effectivement aujourd'hui très loin de ce qui était encore dans le programme du Rassemblement National au moment des européennes, qui était de sortir du marché européen de l'énergie. Même de changer les règles du marché européen de l'énergie, hein, ce que disait encore ce matin Marine Le Pen en réagissant à un de nos sujets. Puisque si vous changez les règles du marché européen de l'énergie, de fait, vous en sortez. Aujourd'hui, Jordan Bardella précise qu'il demandera à Bruxelles une dérogation pour, on va dire, plafonner les prix français de l'électricité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une mesure qui est absolument impossible à mettre en place, que d'ailleurs le gouvernement, il y a 2 ans, avait quand même essayé de négocier à Bruxelles. Bruxelles l'avait dit, il en est hors de question. Et donc, aujourd'hui, Jordan Bardella fait cette précision sur une mesure dérogatoire dont les spécialistes pensent que, de toute façon, elle ne pourra pas être mise en place.
Voilà, pour ce marché de l'énergie, aussi beaucoup d'approximations de la part du Rassemblement National. On en parle évidemment jusqu'à 20h ce soir sur BFM Business. Merci messieurs, 18h03. Pendant ce temps, Bruxelles est en train de dégainer la grosse armada contre Apple, figurez-vous. Elle vient de confirmer que d'après l'Américain, ne respecte pas les règles du fameux DMA européen. Il y a donc entorse à la concurrence, mais il y a surtout le risque d'une très, très, très grosse amende pour Apple. Alexandra Paget.
40 milliards d'euros, soit 10% de son chiffre d'affaires mondial, c'est le montant maximal qui peut être infligé à Apple. Du jamais vu, la commission lui reproche de ne pas se conformer au DMA. Certes, l'entreprise a ouvert l'iOS à plus d'applications non estampillées par ses soins. Elle permet aussi aux développeurs de ne pas passer uniquement par l'App Store, mais le système est encore si fermé que passer outre les solutions maison se révèle être la croix, la bannière, que ce soit pour les développeurs ou les utilisateurs. Apple, qui réfute toute pratique anticoncurrentielle, peut désormais exercer ses droits à la défense en ayant accès au dossier et répondre aux conclusions préliminaires. Mais si celles-ci sont confirmées, Bruxelles pourrait rendre une décision définitive de non-conformité d'ici à la fin mars 2025. La firme s'est déjà vue infliger en mars dernier une amende de près de 2 milliards d'euros pour des motifs similaires. Le géant californien fait systématiquement appel, mais cette fois la réponse du berger à la bergère est d'une autre nature. Apple a invoqué des difficultés posées par le DMA pour retarder le développement de ses outils d'intelligence artificielle en Europe.
Voilà, Apple donc sous la menace d'une grosse amende de la part de l'Union européenne. Alexandra Paget avec nous sur BFM Business. Et puis on va aller à New York pour terminer. Question, les banquiers juniors de Wall Street travaillent-ils trop? Là-bas, la norme, vous savez, c'est 100 heures par semaine. Sauf que le mois dernier, vous avez deux jeunes salariés de Bank of America qui sont décédés de manière un peu suspecte. Alors oui, on avait mis en place des garde-fous, mais apparemment, ils ne sont toujours pas respectés. Reportage sur place, Antoine Hollard pour BFM Business.
Il y a deux ans, Christine J décroche le job de ses rêves, analyste dans une grande banque à Wall Street. Mais rapidement, l'expérience tourne au cauchemar.
Il n'y avait aucune séparation entre le travail et la vie privée. Je travaillais souvent jusqu'à 2 ou 3 heures du matin et plusieurs fois par semaine, je passais même toute la nuit au bureau.
Un travail intensif, sous pression permanente. La jeune femme finit par craquer.
Un jour, je me suis évanouie au travail. J'ai été transportée aux urgences. J'étais la troisième de mon équipe à qui ça arrivait. C'était un environnement de travail très toxique.
À Wall Street, les banquiers juniors sont corvéables à merci et parfois les conséquences sont dramatiques. Le mois dernier, ce salarié de Bank of America meurt, foudroyé par une thrombose. Il avait enchaîné les semaines de 120 heures de travail. Sur des groupes de discussion, ses anciens collègues accusent la direction.
Son manager est responsable, il écrase les juniors de travail. Ses supérieurs savaient qu'ils travaillaient trop et ils n'ont rien fait.
Ce décès relance le débat sur les conditions de travail à Wall Street. Certaines banques ont bien pris des mesures. Interdiction de travailler le samedi, semaine plafonnée à 80 heures. Mais ces règles sont rarement appliquées. Karen Ho, professeure à l'Université du Minnesota.
Il y a une culture du surmenage à Wall Street avec l'idée que travailler énormément est un signe d'intelligence, un signe que vous êtes connecté en temps réel avec les marchés, car les marchés ne prennent jamais de pause.
Et la situation ne va pas s'améliorer car ces dernières années, les grandes banques américaines ont réduit leurs effectifs pour faire des économies. De quoi alourdir encore un peu plus la charge de travail de ceux qui restent.
Voilà, surmenage encore, surmenage toujours. Hein, c'est un vieux sujet des jeunes banquiers du côté de Wall Street. Antoine Hollard avec nous sur BFM Business, 18h07. Bah justement, on va sur les marchés. On y va tout de suite, retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne. On a terminé en hausse pour débuter cette semaine à Paris, Étienne.
En effet, un CAC 40 qui continue de jouer au yo-yo, mais qui là, ça y est, arrive à se retrouver au-delà des 7700 points à la clôture. 7706 points, c'est une hausse de 1% pour débuter la semaine avec de faibles volumes. Mais figurez-vous que le secteur bancaire gagne plus de 2%, même 3% pour BNP Paribas. Seule exception aujourd'hui, c'est Eurofins Scientifique qui s'effondre de plus de 16% avec le fonds activiste Muddy Waters qui voit dans les comptes d'Eurofins certains trucages. En tout cas, il trouve que les comptes ne sont pas clairs et donc suite à cela, vous avez la valeur qui dégringole ce soir à la clôture sous les 45 euros. À noter, et ça c'est une bonne nouvelle sur l'obligataire, que vous avez un spread, donc un écart de taux entre la France et l'Allemagne qui se réduit sous les 70 points de base, alors que la semaine dernière il était au-delà des 80 points de base. En jeu notamment une interview donnée par Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National qui évoque que la France, si le Rassemblement National est au pouvoir, tiendra un objectif de déficit de 3% à l'horizon 2027, et puis qui rassure également les banquiers en disant vous inquiétez pas, le Rassemblement National ne va pas revenir en arrière sur la l'attractivité de la place parisienne avec le Brexit. Donc tout cela permet aux 10 ans français de se détendre sous les 3,12% à l'instant, et l'euro se rapproche des 1,0750, 1,0740 à l'instant. Et donc la Bourse de Paris qui commence la semaine dans le vert avec un plus 1% ce soir à la clôture, au-delà des 7 700 points, 7 706 points. Mine de rien, le CAC 40 a repris 250 points depuis ses plus bas d'il y a 10 jours.
Merci beaucoup Étienne. On regarde ce qui se passe à Wall Street. Bien sûr, mi-séance sur le marché américain, le Dow Jones qui grappille 0,86%, 39 489 points. L'indice Nasdaq, de son côté, perd 0,27%, 17 642 à la mi-séance.
BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
Bonjour à tous, bienvenue dans la grande interview. On est ensemble pendant presque 20 minutes. Le grand retour en arrière. Nous avons deux projets d'inspiration marxiste. C'est évidemment pas moi qui le dis. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Bonsoir, Michaël Zemmour.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Ça vous fait sourire. Vous êtes économiste, professeur à Sciences Po. Vous êtes proche, on peut le dire, du nouveau Front populaire. En tous les cas, vous servez un tout petit peu de référence à leur programme économique. C'est pour ça que vous êtes là. Et puis avec nous aussi, Emmanuel Le Chip. Bonsoir, Emmanuel.
Bonsoir.
Emmanuel, si vous êtes là, c'est que vous avez commencé à faire le chiffrage, comme à chaque élection importante, présidentielle, législative, le chiffrage des différents programmes. Et notamment, vous avez fait un peu les grands équilibres macroéconomiques du programme du nouveau Front populaire. On verra si Michaël Zemmour est d'accord avec vous. D'abord, nous avons deux programmes marxistes, d'inspiration marxiste. C'est vrai que finalement, en fait, il y a pas mal de ressemblances entre les deux programmes économiques.
Économique,
sur les retraites,
non,
sur l'augmentation du SMIC, sur...
Pardon.
Après, il y a des modalités différentes.
Ah non, non, vraiment, c'est très différent et au contraire, il y a une clarification. Le programme du nouveau Front populaire, on pourra en parler, c'est un programme assez classique de gauche, plutôt ambitieux, à la fois de relance, de pouvoir d'achat et qui revient sur des mesures, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage. Du côté du Rassemblement National, il y a une clarification vers la droite, en fait. C'est-à-dire que le Rassemblement National devait choisir entre continuer les baisses d'impôts sur les entreprises, les baisses de cotisations et revenir sur les réformes antisociales. Il a tranché. Il a abandonné l'abrogation de la réforme des retraites. Donc, c'est assez clair. Si le Front National prend le pouvoir, on garde la réforme des retraites jusqu'à 64 ans.
Ils vont l'abroger.
Non.
C'est ce qu'a dit tout à l'heure Bernard Bardella.
Il donne un chiffre, on peut partir de leur chiffre, il donne un chiffre en disant on a budgété 1,6 milliard sur les retraites. C'est un dispositif qui permettrait à 45 000 personnes, c'est-à-dire moins de 10% des départs en retraite chaque année, de partir plutôt vers 60 ans. Abroger la réforme des retraites, c'est-à-dire déplacer l'âge de la retraite de 64 ans à 62 ans, c'est-à-dire revenir à la situation d'avant 2023, c'est dans le programme du nouveau Front populaire. Ça coûte au début pas cher, parce qu'elle vient juste de s'appliquer, et en 2032, ça coûte 20 milliards par an. Mais donc, pour revenir sur votre question, il y a plutôt une clarification. Avant les élections, on avait le discours, vous savez, le Rassemblement National a des mesures sociales. En réalité, quand vous regardez le programme du Rassemblement National, il est clairement marqué à droite. D'ailleurs, on n'arrête pas de dire que c'est pour rassurer les milieux d'affaires. Et puis aujourd'hui, c'est presque une exclusivité, il y a deux chercheurs, Raoul Sampognaro et Elvire Guillot, qui ont rentré les chiffres du Front National, du Rassemblement National, pour regarder les effets sur les inégalités. Et sans surprise, ça les creuse. Il y a plutôt des gagnants dans le décile du haut. Donc le top 10, ils vont plutôt gagner de l'argent.
Et qui va de d'où à où ?
Le top 10 ?
Oui.
Le top 10,
non, mais le top 10, on peut avoir Bernard Arnault. Enfin, je veux dire,
Non,
mais bien sûr.
Non, c'est les 10% de la population, moyenne des 10% de la population, gagnent plutôt de l'argent par des baisses d'impôts, plutôt impôts sur le revenu, baisses d'impôts sur l'héritage, etc. Et en bas de la distribution, du côté des classes plus populaires, en dessous de la médiane, il y a plutôt une baisse. Donc c'est plutôt un programme qui va du côté du creusement des inégalités.
Oui, enfin,
et donc,
Michael
de ce point de vue-là, il y a Bruno Le Maire se grandit pas du tout avec son, d'une part, avec le qualificatif marxiste, ça n'a pas de sens. Et d'autre part, en rapprochant le programme du Rassemblement National du programme de la gauche, parce qu'en réalité, ils sont très antagonistes.
Ce qui est vrai,
c'est qu'au milieu, il n'y a pas de programme du gouvernement.
Ils appuient sur le bouton du pouvoir d'achat, avec des remèdes différents, et ils appuient sur la réforme des retraites, parce que même...
Mais non, expliqué, ils y ont renoncé au Rassemblement National.
Non, ils n'ont pas complètement renoncé, puisqu'en fait, et c'était la question, et j'ai eu effectivement une bataille avec Jordan Bardella lors de la présentation de leur grand oral économique, c'est, en fait, c'est 60 ans, pour les carrières longues, c'est à 60 ans, et puis ensuite, ça reste à 64 ans, j'ai bien compris, et ça sera là, à terme, après l'audit, ça sera à 62 ans. Ça sera redescendu à 62 ans. Et donc la réforme sera abrogée.
Je vais vous expliquer pourquoi.
Vous êtes la même chose.
Non. Deux raisons. La première, c'est qu'ils préfèrent continuer les baisses de cotisations sociales que de faire la réforme des retraites. Emmanuel Le Chip le sait très bien, on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas baisser les cotisations sociales et revenir à la retraite à 62 ans. Mmh. C'est pour ça que le programme du Nouveau Front Populaire, c'est d'abroger la réforme des retraites, mais de mettre de nouvelles recettes du côté des retraites.
Oui, parce qu'il faut
la deuxième chose, c'est que si vous voulez revenir sur la réforme des retraites, il faut le faire tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'elle a commencé à s'appliquer en 2024. Elle commence tout juste à s'appliquer et il ne faut pas que les générations qui arrivent soient touchées par cette réforme des retraites, sinon vous créez de l'irréversible. Et donc si on veut l'abroger, on ne peut pas attendre un audit, etc. Il faut l'interrompre tout de suite et ensuite avancer sur le reste du programme des retraites. Et donc sur les retraites, il y a vraiment une clarification. Alors c'est vrai que tous les jours, ils changent de discours, mais il suffit de regarder les chiffres.
Ils font de la politique, finalement. Ils veulent séduire le maximum de...
Oui, mais il y a une précision qui est assez claire maintenant. Ils s'engagent sur une mesure carrière longue pour environ 45 à 50 000 personnes, alors que du côté du Nouveau Front Populaire, ils s'engagent pour tous les salariés à remettre l'âge minimal de la retraite autorisé à 62 ans. C'est une vraie différence.
Emmanuel Le Chypre.
C'est vrai qu'il y a eu une clarification aujourd'hui assez nette. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que jusqu'à la semaine dernière, le point commun qu'on pouvait trouver entre les deux programmes RN et Nouveau Front Populaire, c'était quand même que, alors avec des canaux différents, c'était des programmes qui ciblaient quand même le soutien à la demande.
Oui.
Par rapport au soutien...
La politique de la demande par rapport à la politique d'offre.
Après, on pourra débattre, évidemment, sans fin, sur est-ce que la France a plutôt un problème d'offre ou un problème de demande. Mais c'est vrai que c'était semblable là-dessus. Moi, ce qui m'a étonné ce matin dans la présentation de Jordan Bardella, c'est qu'effectivement, on a plus, finalement, un programme qui se rapproche de celui d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'ai trouvé que le programme de Jordan Bardella, le programme économique, c'est finalement le programme d'Emmanuel Macron avec un peu moins d'écologie et un peu moins d'Europe.
Je suis d'accord, vous avez oublié une chose, mais effectivement, il est très marqué à droite, vous avez oublié une chose, les mesures xénophobes en plus.
Non, mais ça...
Non.
Bien sûr.
Ça fait partie de l'économie, c'est au cœur du programme.
Oui.
Parce qu'au cœur du programme économique du Rassemblement National, il y a supprimer les droits sociaux d'une partie de la population, y compris des personnes qui sont française mais qui aurait acquis la nationalité, ce qui a un effet direct sur le pouvoir d'achat. Et en plus, ils font croire, sans chiffrage, que c'est ça qui va financer leur politique économique. Et donc, effectivement, les orientations, c'est plutôt le programme d'Emmanuel Macron, mais en plus, ils y rajoutent une politique xénophobe qui se traduit dans les mesures économiques et sociales.
En matière de chiffrage, c'est pas le pire. Non. Le pire, c'est de tabler sur ces fameuses hypothétiques recettes de la lutte contre la fraude fiscale.
Oui.
Juste quand on sait que c'est la France qui a le taux de recouvrement quasiment au monde.
C'est déjà 11 milliards.
Et vous avez quand même des missions qui viennent du monde entier à Bercy pour essayer de regarder comment on fait déjà pour lutter contre la fraude fiscale.
Il y a une phrase incroyable dans le programme que j'ai lu juste avant l'émission qui dit « On va donner accès aux administrations aux fichiers qui permettent de lutter contre la fraude sociale. » Mais ils croient qu'on est dans quel pays ? Évidemment que les administrations sur les prestations sociales, elles ont accès quasiment à toute votre vie, soit l'administration fiscale ou les administrations sociales.
On va passer peut-être maintenant au chiffrage. Après, on reviendra sur la question du SMIC, l'augmentation du SMIC, les conséquences, donc la politique de la demande, l'impact que ça a à moyen terme et peut-être un effet négatif à plus long terme. Emmanuel, vous êtes en train de chiffrer ces programmes économiques, différents programmes. D'abord, expliquez-nous c'est quoi votre méthode. Et deux, vous parlez face à un économiste, donc lui aussi, il a envie de savoir. Et deux, les chiffres, est-ce que ça conduit, quel impact ça a, en fait, impact économique, parce que ça n'a, sur le chômage, c'est un impact négatif. Et puis sur la croissance, où là, c'est un impact aussi négatif.
Alors, brièvement, pour rappeler, en fait, à chaque élection présidentielle, on reprend les programmes. Mmh. Et effectivement, on fait tourner un modèle économétrique dit varianciel. C'est-à-dire, c'est un modèle, en fait, dans lequel on rentre des chocs de politique économique et qui nous répond. Il faut rappeler qu'un modèle, en fait, c'est une maquette. Hein, c'est un modèle réduit du fonctionnement de l'économie française. Là, c'est un modèle universitaire qui s'appelle Maxime 2. C'est un modèle qu'on utilise parce qu'il est quasiment disponible pour tout le monde, que tout le monde peut l'utiliser. Donc, c'est pas un modèle qui vient d'un institut marqué politiquement. Et donc, effectivement, alors, Michael l'a dit, le programme du Nouveau Front Populaire est un programme classique d'inspiration de gauche, de relance.
Néo-keynésien.
Et donc, en gros, quand on rentre dans le modèle, bah, toutes les variables qui ont été données par le programme du Nouveau Front Populaire, c'est-à-dire à la fois côté salaire, les 10% de hausse du SMIC, les 10% de points d'indice des fonctionnaires, et puis tout ce qui est fiscal, c'est-à-dire le nouvel ISF élargi.
Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que le plus gros poste, c'est l'augmentation de 10% des salaires des fonctionnaires.
Et donc on trouve, alors sans surprise, un impact qui est l'impact classique qu'on a connu, qui est le même qu'en 81, par exemple, etc. C'est qu'en gros, si vous regardez sur les deux premières années, on a un impact positif sur la croissance, on a un impact même légèrement positif sur le taux de chômage. En revanche, on a un déficit commercial qui se creuse beaucoup. Et quand on regarde sur l'horizon 2027, parce qu'on s'est arrêté à l'horizon 2027, grosso modo, là, on a un impact sur notre compétitivité important qui fait que bah on perd finalement de la croissance. Et en gros, si on n'avait rien fait, si on maintenait la trajectoire de l'économie française entre aujourd'hui et 2027 sans aucune mesure majeure de politique économique, ce programme... En gros, sur 4 ans, il coûte à peu près 1,5 point de PIB, 2 points en plus.
Mais si ça coûte 1,5 point là, vous-même, m'avez dit 2%. Je veux dire, comme on ne fait pas 2% de croissance, donc ça veut dire qu'on conduit à. On va vers une récession.
Le niveau de PIB en 2027, okay. Il serait à peu près 1,5 à 2% plus bas. Que sans réforme, le taux de chômage serait 2% plus haut. Par contre, en déficit commercial, on le paierait assez cher. Bon. Puisque je rappelle quand même qu'on a 5 à 6 points de déficit.
Alors évidemment, Michael Zemmour n'est pas du tout d'accord avec.
Merci pour l'exercice, Emmanuel. J'ai envie de dire, ne faites pas ça chez vous. C'est-à-dire que de prendre l'ensemble d'un programme et de le rentrer comme ça, comme s'il était appliqué comme une disquette sur 5 ans, ça n'a pas grand sens. Et effectivement, il y a une difficulté, je pense, pour le Nouveau Front Populaire, c'est qu'ils ont voulu être tellement précis, c'est un peu un complexe de bons élèves. Ouais. Ils ont donné plein de chiffres.
Ça complexe d'universitaires parce qu'il y a quand même des super économistes de ce côté-là.
Il y a des économistes.
Il y a Thomas Piketty, il y a Esther Duflo. Enfin, vous voyez.
C'est les politiques qui ont fait le programme, c'est pas les économistes, mais peu importe. Plusieurs choses. D'abord, du côté du Nouveau Front Populaire, ce qui est intéressant dans le programme, c'est pas les chiffres, on rentre pas tous les chiffres sur 5 ans comme ça, c'est la direction qui est prise. Et la direction, je suis d'accord avec vous, Emmanuel, c'est une direction un peu à la Biden de politique de relance. Et c'est là où je suis pas d'accord avec votre exercice sur deux points. D'abord, un programme, ça lance une direction, ça lance une stratégie, et en fonction des retours qu'on a, on met en œuvre la suite du programme. Et ça, je crois qu'ils ont tous été très clairs. Ils ont à la fois une ambition de relance, mais en même temps, ils ont le regard sur le déficit public. Pourquoi ? Parce que le gouvernement actuel laisse l'économie avec un déficit abyssal. 5,5 points, on l'a jamais eu. Et donc, on n'est pas dans une situation où on peut dire, ce qu'a dit la gauche parfois, le déficit, on s'en fiche. Là, ils sont dans une situation où ils disent, on fait de la relance, on en attend des effets positifs, mais en même temps, les recettes publiques qu'on va aller récupérer, notamment en taxant les milliardaires, on va aussi les utiliser pour prendre des mesures, tout en surveillant le déficit. Ça, c'est pour le côté du Nouveau Front Populaire. Et ensuite, là où je suis pas d'accord non plus avec l'exercice, c'est que du côté du gouvernement, si on voulait faire l'exercice au sérieux, ils sont en train de freiner l'économie. Le programme économique du gouvernement, Bruno Le Maire n'arrête pas de le dire, c'est la baisse des dépenses publiques. Ils ont annoncé 10 milliards cette année, 20 l'année prochaine. Alors, d'une part, si on fait vraiment ça, bah, ça freine, ça augmente le chômage, les carnets de commandes des entreprises diminuent. Non, je ne pense pas que ça soit nécessaire, parce que quand on est en bas de cycle économique, c'est plutôt le moment de faire de la relance que de la rigueur. Oui. Et la deuxième chose, c'est que le programme du gouvernement, vous ne pouvez même pas vraiment le rentrer dans votre machine, parce qu'ils ont dit on fait 10 milliards d'économies maintenant, 20 milliards l'année prochaine, en baissant les dépenses publiques, et personne ne sait lesquelles. Et là, personne ne demande de chiffres. Alors que c'est le gouvernement en place, il dit on va baisser les postes de la dépense publique, on ne sait pas lesquels.
Mais d'ailleurs, moi je vous dis franchement, là c'est vraiment... On va affiner tout ça, etc. C'est pas ce que je veux dire. Parce qu'il y a des choses encore qu'on doit recalculer, effectivement. Et puis, on doit s'attaquer, parce qu'on a les chiffres que depuis vendredi, globalement. Et donc, on doit s'attaquer aussi aux autres programmes. Mais comme on se voyait ce soir, j'ai mis l'accent sur celui-là. Moi, je vous dis franchement, quand on voit les masses qui sont dans les programmes, en termes de choc fiscal, en termes d'ampleur des dépenses, je vais vous dire, moi, je pensais que, finalement, il y aurait plus d'impact que ça et plus d'écart que ça. Ça veut dire que quelque part, ces chiffres et finalement leur côté assez peu spectaculaire montrent que ce programme n'est pas complètement, je veux dire, et pas complètement vous, absurde, entre guillemets, ouais, par rapport aux contraintes macroéconomiques.
Moi, je veux dire, c'est ça qui m'intéresse dans ce programme.
Pardon. Non, c'est juste pour revenir sur un instant ce que vous disiez. Puis quelques mots, vous disiez, mais le gouvernement est en train de freiner parce qu'ils ont moins 10 milliards, plus moins 20 milliards en 2025. Mais vous, à la limite, votre choc fiscal, il est encore plus important, donc il va freiner encore plus.
Ah non, non.
Ah si, parce que ça va freiner toutes les entreprises.
Mais précisément, quand vous taxez les milliardaires, vous diminuez pas la consommation.
Non, mais attendez, Bernard Arnault, il va pas sauver la France, ni dans un sens, ni dans un autre, vous voyez ce que je veux dire.
Oui,
il faut peut-être arrêter de se focaliser sur Bernard Arnault et les milliardaires, non enfin,
Non, mais pas du tout. Je pense qu'il y a deux sources de recettes dans le programme du Nouveau Front Populaire. Il y a d'une part le fait de taxer les trois gros patrimoines et d'utiliser cet argent dans soit la protection sociale, soit des investissements et de la dépense publique. Mmh. Et ça, l'effet de frein qu'on a quand on taxe des très gros patrimoines, il est faible, parce que ces patrimoines ne sont pas consommés à court terme, et s'ils sont investis, ils ne sont pas taxés. Alors que quand on fait de la dépense publique, on a un effet multiplicateur puissant, particulièrement comme, quand c'est le cas en ce moment, on est en récession. Enfin, pas en récession, on est en bas de cycle en réalité. C'est-à-dire qu'on est en dessous du PIB potentiel. Et le gouvernement a fait le choix d'annoncer qu'il allait fermer le déficit avec une réduction à marche forcée des dépenses publiques. Et ce que lui ont dit tous les macroéconomistes, c'est si vous faites ça maintenant, vous allez avoir une stagnation de l'économie, vous allez ralentir l'économie. Et donc là, et moi c'est ça qui m'intéresse, le détail des chiffres, en réalité, personne ne sait quelle sera la situation économique dans 6 mois. D'accord. Par contre, il y a deux stratégies économiques. Il y a une stratégie qui privilégie la réduction du déficit, et ça se fait par des baisses des protections collectives. On fait la réforme du chômage pour gratter 5 milliards, on fait la réforme des retraites, on va diminuer les services publics. Et il y a une stratégie plutôt de relance, plutôt à la Biden, où on dit on va chercher l'argent là où il est, on relance l'économie et on restaure les protections collectives.
Okay,
et ce débat-là, il est assez clair.
Michaël, la critique qu'on peut vous formuler, c'est de ne pas tenir assez compte
de l'évolution démographique.
Et puis de l'environnement international, de la concurrence extérieure. C'est-à-dire qu'en gros, il faut juste rappeler que les 25 produits les plus consommés par les Français ne sont plus fabriqués en France, et que donc, vous aurez un effet de relance limité sur la production made in France, et que le raisonnement qui était intéressant, qui était
de dire,
oui, mais comme maintenant on consomme plus de services, il y aura plus d'argent qui sera dépensé en France, ça bute sur les difficultés de recrutement dans les services. Et puis il y a surtout le phénomène que vous niez tous, que vous ne voulez pas voir, qui est l'expatriation des créateurs d'entreprises et des grandes fortunes. Je rappelle quand même qu'au moment de la taxe à 75% de François Hollande, qui n'avait même pas finalement été appliquée, ouais, mais les flux sortants ont triplé par rapport à la période précédente. Et c'est qu'en 2018-2019 qu'ils ont commencé à revenir. Donc ça, c'est une évaporation de base fiscale, je pense, que vous sous-estimez.
Non, mais enfin, quand on a... Je suis pas du tout un fan de l'ISF, mais quand on a supprimé l'ISF, ça a rien fait bouger. C'est-à-dire que le discours...
C'est 5 milliards, hein, l'ISF est en plus compensé par 2 milliards d'IFI. Hein, donc,
oui, donc
il y a que 3 milliards
de baisse d'impôts sur les riches. Ouais. Donc, on a supprimé 3 milliards d'impôts sur les riches. Le discours de tous les ministres qui sont passés à la télé, c'était de dire, ça va stimuler l'investissement dans les entreprises. L'investissement n'a pas frémi. On a supprimé l'ISF. Le seul effet économique que ça a eu, c'est qu'on a eu des riches plus riches et on a attiré aucun riche de l'étranger.
Taux de création d'entreprise.
Il y en a qui sont revenus quand même.
Alors, la création d'entreprise, elle a été boostée par les auto-entrepreneurs. Je vous assure que c'est pas la suppression de l'ISF qui a boosté la création d'auto-entreprises.
Mais pas que les auto-entrepreneurs.
Mais par ailleurs, dans le programme du Nouveau Front Populaire, il y a aussi quelque chose pour taxer les personnes qui ont une activité en France et qui localisent artificiellement leurs profits à l'étranger. Ça, c'est une dynamique mondiale.
Comme les États-Unis.
Comme les États-Unis, pilotée par l'OCDE. Et ça aussi, je pense que ça va dans le bon sens. Encore une fois, je pense que le débat serait plus clair si on parlait des directions plutôt que des chiffres.
Et vous n'avez pas parlé des mesures quand même pour les petites entreprises.
Et non. Eh ben, vous en parlerez la prochaine fois.
Pourtant, il y en a. Sur BFM
Business.
Il y en a. Oui, vous serez réinvité, promis. Merci beaucoup, Michael Zemmour. Je suis désolée. L'heure était maintenant à Guillaume Paul pour toutes les cours. Restez avec nous. Merci, Emmanuel. On se retrouve tout à l'heure.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35 sur BFM Business. On est de retour, les experts. On est de retour jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Audrey Tcherkov, bien sûr, avec nous jusqu'à 20h. Et nos experts qui ont commencé déjà, ça y est, à refaire les programmes. Les uns, les autres, évidemment. Bah, on va parler de tout ça, bien sûr, jusqu'à 20h sur BFM Business. Emmanuel Lechypre est resté pour l'occasion. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Mathieu Pechberti est là.
Bonsoir.
Thomas Asportas est là. Bonsoir Thomas. Et Edwige Chevrillon qui reste avec nous, bien sûr. Rebonsoir Edwige. Alors Jordan Bardella, évidemment, 1h20 à peu près de conférence de presse ce matin pour présenter son programme au sens large.
et notamment, bien sûr, le programme économique.
Évidemment, bonsoir Thomas Asportas. Alors, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres, mais il reste quand même toujours beaucoup de questions.
Ben voilà, c'est bien résumé. Non, mais merci.
Donc...
Déjà, sur le tempo, on va avoir deux temps. Enfin, c'est ce qu'il annonce. L'été, des mesures d'urgence. Sécurité, immigration, pouvoir d'achat. Sur le pouvoir d'achat, ça tourne beaucoup autour de l'énergie, avec, promet-il, une baisse de la TVA sur les produits énergétiques, donc fuel, carburant, gaz, électricité, et aussi, là aussi, promet-il, un bras de fer avec les instances européennes pour déroger la règle des fixations de prix et découpler les prix du gaz de ceux de l'électricité. Et enfin, aussi, revenir tout de suite sur la réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en vigueur au 1er juillet, par décret. Donc ça, c'est pour cet été. Et puis, à la rentrée, à partir de l'automne, au moment du budget, des réformes plus structurelles, notamment sur les retraites. On se souvient du flou au moment du débat jeudi dernier devant les instances patronales. Là, dit-il, pour les carrières longues, départ à 60 ans, pour les moins de 20 ans, 40 années d'annuité. Puis pour les autres, retour progressif à 62 ans. Il annonce aussi aller un cran plus loin sur les impôts de production avec la suppression de la CVAE, comme le veut la majorité, mais aussi la C3S. Et enfin, mais ça, il avait déjà expliqué, qu'il voulait exonérer 10%, ouais. Enfin, exonérer les cotisations patronales pour les entreprises qui augmentent les salaires jusqu'à 10%.
Non, mais alors, c'est intéressant, parce que c'est quand même un virage à 360, c'est-à-dire que... Non, mais c'est une vraie politique de l'offre. Enfin, vous étiez en train de le dire. Ils vont quand même plus loin sur certains sujets que la majorité actuelle.
Ah bah, ils vont même beaucoup plus loin. Si vous voulez, je vous ai fait la liste de toutes les baisses d'impôts qui sont promises. Si on peut prendre 10 minutes, un quart d'heure, plus simplement, je vous fais une minute. Sur les entreprises, on a les impôts de production, on a aussi la suppression de la fiscalité sur les transmissions de TPE, PME, ETI, si les patrons gardent leur entreprise 10 ans. On a l'exonération d'impôts sur les sociétés pendant 5 ans pour les entreprises créées par des moins de 30 ans. Ça, c'est que pour les entreprises. Enfin, déjà, c'est pas mal tout ça. Pour les travailleurs, je vous disais les exonérations de cotisations. On a aussi suppression de l'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans, tout le monde.
Ah oui, non,
du côté des familles, allègement sur les donations.
Mais ça, c'est retiré, ça, la suppression de l'impôt sur
le revenu. Non, c'est revenu. Ensuite,
il y a quelques jours,
sur le moyen terme, c'est revenu.
Ah, sur le moyen terme.
Oui.
C'est
sur le site officiel de
Rassemblement. Et alors, attendez, juste on termine pour les familles.
Sur les familles, allègement sur les donations et les successions, part fiscale complète dès le deuxième enfant, retour de la demi-part fiscale pour les veufs et les veuves. Donc, enfin, vous voyez.
Et pas de chiffrage.
J'ai plus la minute, mais... Et à la fin... Non, et alors, face à tout ça, donc là, on a une énorme colonne baisse d'impôts, et en face, on a une petite colonne économique qui n'est pas chiffrée.
Mais
le RN nous assure qu'il y a l'argent à la fois dans les dépenses sociales liées à l'immigration, dans la suppression des fiscales, mais on ne sait pas encore lesquelles, dans le renforcement de la taxe sur les énergéticiens, ça étape sur 3 milliards d'euros, comme gouvernement, c'est ce qu'il va le faire cette année.
Mais il y aura zéro.
Et il y aura zéro.
Et puis une négociation avec l'Europe.
Et enfin, la baisse de la contribution française au budget européen.
Voilà, 2 milliards. 2 milliards.
Mais il n'y a toujours pas de chiffres parce qu'on nous parle de cet audit qui, enfin, moi je me dirais ça comme ça, est un faux-nez destiné effectivement à préparer les esprits à d'autres
Ce qui est très, très frappant, je ne parle pas de la taxe sur les produits pétroliers et sur l'électricité, on en parlera avec Mathieu Pechberti. Mais ce qui est quand même assez frappant, c'est que tout ça est extrêmement flou et qu'il y a une fluctuation de leurs mesures, de leur programme économique au fur et à mesure que ça avance et que l'échéance se rapproche. C'est-à-dire que là, on sent vraiment qu'ils sont dans une tentative de séduction de tous les gens qui n'en peuvent plus de Macron, d'Emmanuel Macron, et qui veulent, qui cherchent, qui sont plutôt droite, et donc qui ont envie d'aller voter, non pas Macron, mais Rassemblement National. Et donc, je pense que c'est une tentative de séduction, et notamment, il est vrai, auprès de la sphère économique.
Et des petits patrons.
C'est assez clair, on voit qu'il y a 41% des petits patrons, le dernier sondage en date, qui votent pour, qui sont prêts à voter pour l'Assemblée nationale. Les classes moyennes, qui s'estiment complètement les écrabouillés du système, elles sont à 42% prêtes à voter Rassemblement National.
Mais alors, donc, il y a un vrai message pour les entreprises, petites, moyennes,
et grandes. Il y a une vraie tentative
Emmanuel,
de solution. Je suis d'accord avec Audrey. Il y a une clarification. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait tendance presque parfois à renvoyer les programmes Nouveau Front Populaire, RN, dos à dos, en disant c'est des programmes axés uniquement sur le soutien de la demande, alors que la France a un problème d'offre, etc. Dans la conférence de ce matin, il y a effectivement une clarification sur une politique de l'offre, mais qui effectivement, c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire qu'on voit finalement chacun ajuster...
Je ne sais pas si on va jusque-là, quand même.
Bah, si, quand vous en avez... Il y en a quand même beaucoup pour les entreprises qui vont plus loin que ce que propose l'actuel gouvernement. Et là, où ce que dit Thomas est très intéressant, c'est qu'on voit bien que finalement le problème c'est pas forcément Emmanuel Macron, c'est pas forcément le programme d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron. Oui. Et donc moi je suis désolé, mais dans les propositions qu'on a eues ce matin, il y a du Macron sans Macron. C'est-à-dire que vous avez les avantages c'est de ça. Macron sans les inconvénients de la personnalité de Macron.
Et sans les économies en face, accessoirement.
Oui, non mais d'accord, mais ce que je veux dire...
Il n'y a aucun patron qui achète une baisse d'impôts pas financée.
Non mais attendez, la folie, c'est facile. Thomas, les 10 milliards cette année, ils vont les chercher où? Les 20 milliards l'année prochaine?
Mais comme personne n'achète aussi les finances publiques.
Dans la crédibilité d'aller chercher des milliards pour équilibrer les FDA, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui soit vraiment en mesure de racheter les autres.
Écoutons, il n'y a pas de hausse d'impôts.
Écoutons une voix patronale, c'est de Pierre Gattaz, l'ancien patron du MEDEF, qui ce matin disait, enfin il mettait un petit peu tout le monde dans le même panier, les extrêmes de gauche et de droite. Il ne faut pas céder aux sirènes de ces programmes économiques. Écoutez Pierre Gattaz ce matin.
1% de ce programme est mis en œuvre le 7 juillet au soir, ce serait dramatique pour la France. Moi, j'ai connu 1981 avec l'arrivée de François Mitterrand, j'avais 20 ans, et il y a eu 2 ans, je dirais, de bêtises économiques épouvantables, dont on paye encore les fruits, les problèmes aujourd'hui. J'ai connu la mise en place forcée des 35 heures, si vous voulez, dans les années 2000, ça a été aussi dévastateur, et on le paye encore aujourd'hui, et j'ai connu l'arrivée de François Hollande, en effet, avec des propositions tout à fait bizarres sur une flat tax à 80%, sur on taxe les riches à 75%, mais qui est un effet dévastateur parce que, vous savez, l'économie a besoin de confiance et d'attractivité.
Et de stabilité.
Lorsque les patrons ne sentent rien, ne sentent pas bien l'affaire, d'abord ils n'embauchent plus, ils n'investissent plus. Donc le chômage peut repartir à la hausse d'une façon extrêmement rapide.
C'est le premier risque, l'investissement s'arrête,
l'emploi s'arrête.
Et puis compétitivité, donc attractivité.
Bien sûr. Et ensuite l'attractivité, je dirais, on a besoin de stabilité, on a besoin de visibilité. Des réformes fiscales, sociales. Si tout ça s'arrête et si vous êtes dans une mesure d'extrême gauche et des programmes économiques d'extrême gauche, je peux vous raconter que l'image de la France va se dégrader à une vitesse extrême. Et donc tous les beaux projets en cours, vous savez, il y a plein de méga-usines à Dunkerque, etc., vous pouvez oublier.
Voilà. Oui, alors l'image de la France qui se dégraderait à une vitesse grand V, ceci dit, même si les investisseurs n'ont pas forcément tous les mécanismes macroéconomiques en tête, ils ont bien compris que la France était en train de se faire dégrader, qu'en effet on allait chercher 10 milliards cette année et 20 milliards l'année prochaine, sans savoir où est-ce qu'on allait les piocher. Donc est-ce que ça va changer réellement quelque chose?
Oui, je pense que
Thomas Asportas.
Ouais, bah, entre une politique économique, un cap qui est donné et boucler un budget, il y a quand même, effectivement, je pense, les patrons ne mettent pas ça sur le même niveau. Les deux sont importants pour eux, parce que l'état des finances publiques conditionne le financement d'une politique économique. Mais là, on parle de cap d'une politique économique, c'est quand même le cran au-dessus. Et effectivement, encore une fois, je reviens à ce qu'on disait avec Emmanuel, je suis tout à fait d'accord avec vous, on ne peut pas faire gré à la majorité actuelle d'avoir été réprochable sur le financement de quoi que ce soit.
Mais maintenant, pour un listing pareil
de baisse d'impôts, c'est ce qui s'appelle raser gratis. C'est trop facile. À ce moment-là, demain, on peut encore nous annoncer plein de choses qui peuvent séduire un électorat.
Mais c'est ce que fait la politique du gouvernement actuel. C'est qu'ils ont dit pas de hausse d'impôts, ils ont baissé les impôts. Alors c'est vrai que le taux de prélèvement obligatoire est très élevé, mais ils ont baissé les impôts et c'est pas financé de l'autre côté.
Non, c'est pas financé.
Les déficits,
puisque les impôts rapportent plus qu'avant. Ils ont dit on baisse les impôts et maintenant ils disent on arrête les impôts.
Vous voyez bien que la différence quand même notable, c'est que vous avez des promesses de réformes et de mesures qui ne sont absolument pas financées. Ce qui est dit sur les retraites, ce qui est dit sur la TVA, voilà,
oui, ce qui est quand même assez grave et qui, à mon avis, aura des séquelles durables, notamment vis-à-vis des investisseurs étrangers, c'est que vous aviez quand même cette impression auprès des gens, alors soit investisseurs financiers, les grands fonds de pension, les grands fonds d'investissement, soit des entreprises qui venaient investir en France, il y avait quand même cette impression qu'avec Emmanuel Macron, la France avait changé et que la France était devenue un pays plus raisonnable. Et que la France avait perdu un peu cette image qu'elle a souvent eue, qu'elle a longtemps eue, qui était l'image d'un pays qui pense qu'il peut s'affranchir des lois de la gravité économique, parce que et des dirigeants politiques qui pensent que on vit dans un monde un peu clos et qu'on peut faire la politique économique qu'on veut. Et ça, quel que soit, quand ils regardent, je peux vous dire que quand vous prenez les fonds d'investissement, tout ce qui est intéressé par la France à l'étranger, private equity,
les fonds d'investissement,
ils se disent mais finalement la France France, c'est instable. Les Français n'ont pas changé. Tous les programmes qu'ils ont en face d'eux sont quand même globalement assez irréalistes, assez démagogues même, on peut le dire. Et donc ça, moi, je crains que ça laisse des séquelles durables, quel que soit le résultat.
Oui, donc Bardella fait du Macron.
Oui, alors oui, mais alors attendez, juste parce que si on reprend les différentes séquences depuis le début de l'année, on a eu à la fois une dégradation de la note française et par ailleurs, on s'est fait épingler par la Commission européenne pour déficit excessif. Donc les investisseurs étrangers, ils ont bien compris qu'on n'était pas dans un modèle économique hyper stable.
Oui, mais enfin, la France reste la France, la signature de la France reste quand même une des meilleures signatures en Europe. La preuve, la dernière émission, ou même la prochaine, je pense, se passera bien. Donc, quand même, et puis Bruno Le Maire, il est là depuis 7 ans. Donc, il y avait un côté très rassurant.
Oui, une stabilité politique.
Une stabilité politique qui, pour les investisseurs étrangers, notamment, était vraiment quelque chose de très
donc
positif.
Donc là, on a une instabilité économique couplée à l'instabilité politique.
4 jours, 5 jours, y compris des grands banquiers américains qui s'apprêtaient à renforcer leur bureau parisien. Là, ils attendent, et à mon avis, on va attendre longtemps.
Beaucoup ont mis leur investissement sur pause.
Ils attendent de voir ce qui va se passer si le gouvernement RN se met en place, ce qui se passe, s'il y a de nouvelles dégradations. La bataille budgétaire, la bataille budgétaire 2025.
Dans ce temps perdu, il y a des projets qui sont mis en pause et qui se feront, mais il y a des projets qui, de toute façon, ne se feront pas.
Oui, ne se feront plus.
Un mot sur les retraites, on est raccord, vous avez compris exactement de quoi
il s'agit. Alors ça y est Edwige, parce que suite à votre débat en effet sur scène avec Jordan Bardella, c'est clair.
C'est la même chose, enfin oui c'est clair, oui et non, enfin oui.
Donc, on sait ce qui se passe, à quel âge et quand.
Alors, ce qui est très clair, c'est les 60 ans et 40 annuités pour les carrières longues. Là, on est d'accord. Là où c'est moins clair toujours, c'est on abroge mais on reste à 64 ans tant qu'on n'a pas fait l'audit qui montre qu'on est capable de mettre des économies en face pour faire les 62 ans. C'est là où on retrouve aussi le programme du nouveau Fonds populaire qui est lui aussi pour les 62 ans, mais lui tout de suite.
Oui. Retour progressif aux 62 ans avec 42 ans de cotisation et tout ça sera soumis au résultat de l'audit à l'automne prochain. Moi, j'appelle ça conférence, gagner du temps. Hein, je suis désolé.
D'une conférence sociale sur les salaires et les conditions de travail. Ils disent... Voilà. On ne veut pas exercer le pouvoir de manière verticale, on veut concerter, on respecte les partenaires sociaux, on veut faire une conférence avec eux pour voir comment on revient à 62 ans.
Pardon, c'est le même qui ce matin dit « je conditionne beaucoup de réformes, de tricotage de cette réforme des retraites au résultat du grand audit » et c'est le même qui vous dit quelques minutes après, comme l'avait dit François Fillon à une époque, « je suis susceptible de devenir Premier ministre d'un État qui est en état quasi faillite ».
Ah mais lui, il le dit, la France
donc,
est en fait...
Une fois que vous avez dit ça, bon ben voilà, le constat est fait, la cause est entendue, qu'est-ce que vous attendez d'un audit qui ne donnera rien de nouveau
Il faut essayer je pense qu'il faut arrêter d'essayer de trouver de la cohérence où il n'y en a pas. Il faut arrêter d'essayer de trouver une sorte d'idéologie ou de théorie économique là où il n'y en a pas. Je me souviens, il y a 20 ans, quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour en 2002, il avait dit « je suis économiquement de droite et socialement de gauche ». Donc c'était la formule choc, c'est resté, mais ça ne veut rien dire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de politique de l'offre ou de la politique de demande, il y a un petit peu de CVAE, petit peu d'impôt de production. Attendez, pour les entreprises, parce qu'il est passé devant les patrons il y a quelques jours et qu'il faut bien les verrouiller pour pas trop leur faire peur, mais en même temps, il faut faire des mesures populaires et on va dire, pour certains, s'ils le souhaitent, populistes, et donc on baisse la TVA. Donc vous voyez bien qu'il saupoudre dans tous les sens, qu'il n'y a pas d'axe, et donc il faut arrêter de penser que d'un jour sur l'autre, on passe d'une politique plutôt à gauche ou plutôt à droite, ça slalome en permanence. Oui. Et c'est ça sur tous les plans, que ce soit l'aspect budgétaire, sur la réforme des retraites, on vient d'en parler, sur l'énergie, on a les deux, on met un peu à droite, un peu sur les baisses de TVA. Enfin, ça n'a absolument, économiquement parlant, aucun sens. Et vous savez quoi? Eux font de la politique. Donc, quand on essaye de faire de l'économie et que les faits sont têtus,
là, on est dans le temps politique.
On se fait des nœuds au cerveau. Donc, moi, faites ce que vous voulez. Moi, j'arrête de me faire
des nœuds. Mais en tout cas, Edwige, ce que votre invité précédemment rappelait, Michaël Zemmour, c'est que si il fallait abroger la réforme des retraites, eh bien, il fallait surtout qu'elle soit abrogée vite parce qu'en fait, elle a déjà commencé et on aurait une année de gens qui vont partir à la retraite avec, du coup, des inégalités pour ces personnes-là, forcément.
Et c'est pour ça qu'en face, ils mettent un coup de 20 000 alors que le Rassemblement National mis un coût de 1,6 milliard. Donc, on voit bien, c'est là où Michaël Zemmour, économiste, disait, vous voyez, c'est pas très très sérieux.
1,6 milliard, c'est des carrières longues.
Uniquement, c'est ça.
Juste pour les carrières longues. Le reste, c'est pas si frais.
Non, c'était dans la suite de ce qu'on disait sur le fait fait que Bardella est là pour... Jordan Bardella, pardon, est là pour rassurer les milieux d'affaires, les patrons. Il y a eu, ces derniers jours, quelques noms jetés ici ou là dans quelques journaux, comme La Tribune Dimanche, Le Monde, sur, on va dire, des grandes figures.
Alors, on a entendu... Hubert Védrine.
Attendez.
Oui. Moi, je les ai tous testés. Aucun, mais aucun n'a confirmé avoir été approché ou avoir eu de contact avec l'entourage de Jordan Bardella. Donc, en fait, avant le premier tour, évidemment, ils n'ont aucun intérêt à le dire. Mais il y a quand même des grands noms qui sont sortis, comme celui d'Henri Proglio, ancien PDG d'EDF.
Henri
de Castres, ancien PDG d'AXA. Yves Perrier, ancien patron d'Amundi, qui est un grand gestionnaire d'actifs. Et tous se planquent ou démentent, ou font démentent, ou en tout cas, leur
Oui, mais c'est le jeu, Mathieu.
Leur entourage,
c'est facile de lâcher des noms.
C'est pas le jeu.
Oui.
C'est le jeu de qui?
Oui, peut-être, mais personne n'a intérêt à vous dire oui, on a été approché.
Mais avant le premier tour, bien évidemment.
Voilà. Glucksmann a lâché le nom de Laurent Berger qui a démenti aujourd'hui. Vous voyez, c'est pareil.
Là, vous voyez, moi, je tourne la planète là quand vous me dites ça. Ces patrons-là, ces grandes figures du capitalisme, n'ont aucun intérêt, évidemment, à dire qu'ils ont été approchés par le Rassemblement National, mais leur entourage nous disant off, mais surtout pas au secours. Donc, si vous voulez, économiquement parlant, le Rassemblement National, enfin le Front National puis le Rassemblement National ont toujours été mauvais. C'est ce qui les a fait perdre en 2017, puis perdre en 2022. Ça n'a pas changé. Ils font de la politique. Leur grand pilier.
Oui, alors le casting est différent aujourd'hui.
Leur grand pilier politique ne sont pas l'économie, sont l'immigration et d'autres sujets, la sécurité, l'ordre, etc. Et en fait, ils n'en ont rien à faire de l'économie. Tout ce qu'ils veulent, c'est pas faire peur, vous voyez ?
Enfin, on sent qu'ils ont musclé la partie économique de leur programme, mais parce que c'était justement ce qui leur avait fait défaut précédemment.
Ils ont moins de plumes, mais c'est bien pas un point fort.
En 15 jours, ils changent d'avis, on leur dit que c'est pas chiffré, ils essayent de chiffrer, les chiffres sont divisés par deux, on rajoute un peu.
Le fait est que vous mettez l'accent sur un point sérieux, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé l'oiseau rare pour aller à Bercy, pour rassurer, justement, pour incarner ce sérieux.
Ils ne le trouveront pas.
Mathieu, la tentation du pouvoir.
Le Rassemblement National ne trouvera pas une coalition au Rassemblement National avec une grande partie de la droite, ça c'est une autre chose. Mais le Rassemblement National ne trouvera pas d'oiseau rare à Bercy.
Juste quand même, c'est sûr que nous on parle beaucoup d'économie et des programmes économiques. Bien évidemment, ils sont tout à fait conscients que la base de leur électorat, ce qui les intéresse, c'est l'immigration, c'est la sécurité, et que sur le reste, c'est pas très important.
Pourquoi
ça a eu de l'impact au moment des élections présidentielles? Pourquoi en 2017, Marine Le Pen perd quand même des points, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps sur un débat présidentiel? C'est pas parce que les thèmes sur lesquels elle s'est fait battre, c'est l'économie. C'est parce que, clairement, face à Emmanuel Macron...
La question de la sortie de la zone euro, ça a joué quand même.
Mais elle manque de technique.
Vous croyez que les gens, ils y comprennent beaucoup de choses sur la portée de la zone euro? Non, ce qui lui a coûté cher, c'est ce déficit de compétences. Oui. C'est-à-dire que les gens ont vu un Emmanuel Macron qui leur a paru compétent et une Marine Le Pen qui ne leur a paru compétente.
Et dans une France à 10% de chômage.
Et dans une France à 10% de chômage.
On sortait du quinquennat Hollande, la courbe du chômage tous les mois. Donc, c'était le mot qui revenait le
Donc je pense que c'est surtout ça qui lui a coûté cher, c'est le fait de paraître moins compétente, pas tellement le comparatif des programmes, vous voyez.
Non, mais c'est sûr que de toute façon, l'économie ne fait pas voter, il n'a jamais fait voter, on vote pour une posture, on vote pour une histoire, on vote pas pour un programme économique.
Non, mais du reste,
c'est nécessaire, mais pas suffisant.
Je veux dire, ce qui est presque, on est presque la démonstration, c'est le fait que tout le monde s'envoie des chiffres à la figure, qu'il y a des économistes partout, tout le monde est économiste. On disait ça avec Emmanuel Le Chip, qui est un vrai économiste.
Oui, mais vous avez raison, avec des interprétations complètement différentes sur chaque programme.
Voilà, on brasse les milliards, les millions, je me suis trompée, non, en fait, c'est pas 10, c'est 20, c'est pas 12, c'est 17. C'est un côté ubuesque.
Et des économistes qui se divisent.
Crédibiliser tout ça.
Et ça fera pas vraiment bouger les lignes, in fine, on le verra peut-être, on verra dans ça.
Les lignes politiques.
Deux minutes pour parler d'énergie. Mathieu Pechberti voulait nous dire reculade sur reculade, renoncement sur renoncement, incohérence sur incohérence dans le programme du Rassemblement National sur l'énergie.
En tout cas, ce qui est vrai, c'est que l'énergie, là maintenant, est vraiment en tête de liste des mesures de Jordan Bardella. On l'a vu ce matin
dans la
conférence de presse. Ça fait parmi des principales urgences. Et d'ailleurs, la première dont il parle. Alors effectivement, il y a quelques jours, il dit qu'il faut davantage aider les entreprises pour qu'elles aient un prix d'électricité plus avantageux, idée qui a été à peu près reprise en tout cas par le gouvernement. Aujourd'hui, ils disent qu'il faut baisser la TVA sur l'énergie, mais on sent bien que là-dessus, ils sont déjà en train de bouger. On passait de 20% de TVA à 5,5. Oui. Et puis ce matin, Jordan Bardella a dit qu'il faut s'aligner sur la moyenne de la zone euro qui est à 11%. Mais ils ne sont pas allés plus loin, si vous voulez.
Quand il dit renouer avec les prix français de l'électricité, qu'est-ce que ça veut dire?
Ah oui, alors après, effectivement, il y a le marché européen de l'énergie, évidemment. Alors, marché européen de l'énergie, pour essayer de ne pas faire trop compliqué, il y a encore un mois, le Rassemblement national a dit qu'il faut sortir du marché européen de l'énergie. Marine Le Pen a dit encore ce matin sur les réseaux sociaux que c'était faux, qu'elle avait demandé à sortir des règles. Oui. Alors quand vous sortez des règles, vous sortez d'un marché. Ou alors,
comme le Portugal.
S'il faut changer les règles, et donc s'il faut changer les règles, vous changez le marché, vous sortez du marché. Ouais.
Et alors, le gouvernement.
Deux secondes. Le gouvernement a dit, a essayé il y a deux ans de changer les règles. Hein. Le gouvernement d'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, a essayé de changer les règles. Il n'y est pas arrivé. On était en pleine crise énergétique.
Ouais. Et donc aujourd'hui, enfin, on est sorti de l'arène quand même.
Non, mais ça, c'est les règles françaises. Le gouvernement a dit il y a deux ans, on sort, on essaie de changer les règles du marché européen et de la libre fixation des prix. Il n'y est pas arrivé. Marine Le Pen dit aujourd'hui, on change les règles. Et Jordan Bardella a redit ce matin, donc, on souhaite avoir une sorte d'exception française, comme l'Espagne et, le Portugal, pardon.
Oui, une dérogation.
Il y a deux ans, une dérogation. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, parce que c'est trop compliqué, mais la France ne peut pas, parce qu'il y a un truc qu'on ne changera jamais, c'est que la France est un carrefour géographique en Europe. Et donc, si vous faites une sorte de d'îlot énergétique au centre de l'Europe, le marché européen n'existe plus.
Non, en plus, il
dit... Et donc, d'ailleurs, Jordan Bardella ce matin a dit, non, mais c'est vrai, alors on n'oublie pas qu'on a des voisins européens, qu'on a des interconnexions avec la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, l'Espagne et même avec les Anglais sous la Manche. Donc à un moment donné, on ne peut pas. Donc petit à petit, ils se rendent compte qu'ils font des promesses, mais qui sont...
Mais il l'a maintenu ce matin. On veut une dérogation rapide. On veut une dérogation rapide de l'Union européenne.
Il va aller à Bruxelles et Bruxelles va lui dire non.
Sans rien. Voilà.
Alors c'est marrant parce qu'il il a fait 30% des suffrages aux élections européennes.
Bah oui, absolument.
Il aura énormément de députés. Donc à moins que les députés, notamment Rassemblement National, essaient de changer les règles du droit européen. Mais si vous changez les règles du droit européen, vous sortez des traités. Ce que je veux dire par là, c'est que...
Oui, il y a un mur des réalités.
C'est un raisonnement complètement absurde, puisqu'ils ont promis des choses qui sont intenables. Et dernière chose, parce qu'on va rester dans le symbolique pour être presque sur une note humoristique, Marine Le Pen, il y a encore deux mois, disait, je me souviens, sur le plateau d'Hertel, on va démonter les éoliennes. Bon, bah voilà, Jordan Bardella dit ce matin, non, on ne va pas les démonter. Et on ne va même pas arrêter les énergies renouvelables, on va faire un moratoire. Et donc, par définition, un moratoire est une suspension temporaire.
Donc, il était déjà un petit peu question de moratoire. Le ton s'était déjà un petit peu adouci depuis quelques temps sur les éoliennes.
On était sur un arrêt du développement des énergies renouvelables.
Et là, on pourrait en démonter quelques-unes.
Des nouvelles constructions.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Non, mais vous voyez, est-ce que. Qu'ils se rendent bien compte que sur un sujet aussi sérieux que l'énergie, ben vous pouvez pas faire n'importe quoi.
Oui.
Et j'ai envie de dire tant mieux.
Oui, absolument tant mieux. Mais pour un parti politique qui se dit depuis des mois, voire des années, prêt à prendre le pouvoir immédiatement, on voit bien qu'il y a une certaine impréparation.
C'est aussi le cas du nouveau Front populaire sur le plan énergétique là aussi.
Oui, absolument.
Ça, on parle pas du nucléaire. On parle carrément pas de nucléaire dans le programme commun. Là.
Ça dépend à qui vous parlez.
Même Marine Tondelier en parle pas. On n'a pas parlé le jour après l'inauguration du programme. Bon, c'est terminé. 18h57. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'être venus ce soir pour cette première partie des experts. Mathieu Pechberti, Emmanuel Lechypre, Thomas Asportas, Edwige Chevrillon. À demain.
Oui, à demain. Deux invités, mais surtout une, Anne-Charlène Benzizar, la constitutionnaliste, parce que moi j'ai envie de savoir, est-ce qu'on peut avoir une session extraordinaire? Si jamais Emmanuel Macron dit non, qu'est-ce que ça peut se passer? Nomination du Premier ministre, bref, j'ai envie de revoir les basiques
possible,
de la constitution française, parce qu'il faudra bien voter un budget et un projet de loi de finances rectificative. Qui pourra le voter?
C'est vrai qu'on ne se projette pas trop après le 7 pour l'instant, malheureusement.
Mais pour une fois, on va
essayer. Absolument. Merci à tous les quatre. 18h58, on revient dans un instant.
Oui, on se retrouve tout de suite. On est ensemble en direct jusqu'à 20h.